L'actualité en profondeur sur Radio Capice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bien, merci d'écouter le magazine électoral. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Selon les calendriers de la CENI, c'est le 10 avril prochain que vont se dérouler ces élections, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province et des vice-gouverneurs de province. Alors, comment est-ce que, quel sera le mode de scrutin? Comment tout ce que cela va se dérouler? Eh bien, les détails, c'est dans quelques instants avec M. Joseph Sendalou Samba, chargé des opérations à la CENI. M. Joseph, encore une fois, bonjour.
Bonjour, M. Joly.
Alors, la CENI confirme la tenue des élections des gouverneurs pour le 10 avril prochain.
Et effectivement, nous sommes prêts pour le 10 avril. Mmh. Initialement prévu pour le 27, l'élection a été reprogrammée pour le 10 avril. Donc, dans 5 jours... nous allons devoir procéder à l'élection des gouverneurs de 24 provinces de notre pays.
Et pourquoi seulement dans 24 provinces et pourtant la République a 26 provinces?
Effectivement, comme vous le savez, le 31 mars dernier ont eu lieu les élections des députés nationaux et provinciaux dans 4 circonscriptions, Yumbi pour le compte de Maïndombe et Béniville, Béni Territoire et Boutembouville pour le compte de la province du Nord Kivu. Donc, les deux provinces ne sont pas concernées par l'élection de gouverneur prévue la semaine prochaine, le 10 avril. Voilà pourquoi nous parlons de 24 provinces.
Pour quelles raisons? Parce que...
Mais nous savons bien que les élections dans ces deux provinces avaient été retardées pour des raisons d'une part sécurité et d'autre part pour des raisons de santé, notamment ce qui concerne la présence d'Ebola dans le Nord Kivu. Ce sont les deux raisons qui ont fait que la CENI n'est pas en mesure de tenir les élections dans ces 4 circonscriptions.
D'accord. Alors, quel est le mode de scrutin de gouverneur?
Bon, disons que, de manière générale, pour ceux qui s'intéressent à la question, c'est-à-dire à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, les bases légales, on le retrouve dans les dispositions des articles 158 à 173 de la loi électorale. C'est là que se trouve le fondement même des élections de gouverneur. Mm-hmm. Maintenant, pour répondre à la question que venons de poser, le législateur le dit dans l'article 170 de la loi électorale, le gouverneur et les vice-gouverneurs de province sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, ils sont sur une seule liste, le gouverneur et les vice-gouverneurs. Il s'agit bien sûr d'un scrutin secret, mais au suffrage indirect majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans qui est renouvelable une seule fois. Donc voilà le mode de scrutin de l'élection de gouverneur. Évidemment, c'est pas seulement ça. Il y a la suite dans la même disposition, dans le même article. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé dans les 3 jours à un second tour de scrutin. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 listes arrivées en tête du premier tour compte tenu des retraits ou des essaiements éventuels. En cas d'égalité de voix, la liste dont le candidat gouverneur est le plus âgé l'emporte. Donc, cet article est clair. Nous savons très bien que le gouverneur et son vice-gouverneur se présentent sur une même liste. Il s'agit d'un suffrage indirect parce qu'en fait, ils ne sont pas élus directement par la population.
Mais par les députés provinciaux.
Par les députés provinciaux, c'est pour cela que nous parlons de suffrage indirect, oui. qui est secret. Et c'est un suffrage majoritaire, c'est-à-dire celui qui obtient le nombre de voix passe au premier tour. Sinon, on organise un deuxième tour pour qu'on obtienne 50% plus une voix. Voilà.
Voilà. Et on dit que le plus âgé, c'est celui qui l'emporte.
Oui, en cas d'égalité des 2 listes, c'est-à-dire que si la liste A, la liste B, au terme de scrutin, au premier tour, les deux ont enfin au premier ou deuxième tour, les deux ont le même nombre de voix, mmh. eh bien, c'est le plus âgé qui l'emporte. Mais oui. avant qu'on en arrive là, mmh. il faut d'abord qu'au premier tour, on ait obtenu la majorité. Si on n'a pas obtenu la majorité, les deux listes qui viennent en tête se retrouvent au deuxième
tour.
Donc
la majorité, c'est, ça veut dire 50.
Donc, c'est-à-dire que si nous prenons 48 députés provinciaux à Kinshasa, c'est 24 plus une voix. Donc il faut avoir 25 pour passer au premier tour. Sinon, alors, vous revenez au deuxième tour, mais cette fois-là, ne seront engagées que les deux premières listes. Celle qui aura obtenu, par exemple, je dis au hasard, 19, et puis une autre qui aurait peut-être 12. Okay. Mmh. Comme ils sont en deçà de 24 plus 1, c'est-à-dire 25, ils reviennent. Et cette fois-là, il y aura certainement une liste qui gagnera. Si à tout hasard, ils se trouvent en égalité, à ce moment-là, on prend la liste du candidat gouverneur le plus âgé.
Le plus âgé.
Oui.
Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Des questions et préoccupations par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, appelez au 081 890 63 94. Alors j'imagine qu'on est déjà en pleine campagne électorale.
Non, la campagne, elle commence demain.
Elle commence demain.
Elle se termine le 8, comme le recommande la loi. Mm-hmm. La campagne prend 3 jours et nous précisons que cette campagne est menée auprès des grands électeurs. De la même manière que cela avait été le cas avec les sénateurs, les grands électeurs étant les mêmes, les députés provinciaux, c'est auprès d'eux que les candidats gouverneurs s'adressent, présentent leur programme d'action et se font accepter par ces électeurs, ces grands électeurs. Donc la campagne commence demain, elle se termine le 8, 48 heures avant la tenue des scrutins prévus pour le 10 avril.
Commence demain le 5.
Demain le 6.
Le 6 avril, d'accord.
Demain le 6 avril.
Et se termine
le 8.
Le 8,
ouais.
D'accord. Et comment est-ce qu'elle va se dérouler, cette campagne?
Comme je viens de le dire, elle se déroule dans l'enceinte
des assemblées provinciales.
Auprès des grands électeurs, qui sont les députés provinciaux. Autrement dit, ça ne sert à rien d'aller déranger.
Est-ce qu'il faut des affiches, il faut des t-shirts, comment ça se passe généralement?
Bon, en fait, ça se fait comme d'habitude, avec affiches, avec banderoles, avec peut-être fanfare. J'en ai vu quelque part une fois, la fanfare, mais au sein de l'Assemblée provinciale. Mmh. Je sais que les dérapages ne vont pas manquer, il y en a qui vont aller vers la population. Comme fond d'idée que la population fasse pression
sur les députés provinciaux
afin qu'ils votent en leur faveur. Évidemment, nous allons vivre peut-être une expérience assez nouvelle dans la mesure où, avec tout ce qui s'est passé, toutes les suspicions
de corruption,
nous allons voir comment est-ce que la population va se comporter elle-même. Est-ce qu'elle viendra sur les lieux de vote pour faire pression? Nous ne savons pas exactement. Comment réagira-t-elle face et aux candidats à gouverneur et aux électeurs députés provinciaux, mmh. eh bien c'est une nouvelle expérience que nous allons voir à partir de demain, étant donné ce que nous venons de vivre il n'y a pas longtemps.
Alors, dites-nous, M. Joseph Senda, combien de candidatures avez-vous enregistrées pour ces élections?
Bon, on a sorti les listes définitives, je les ai ici, mmh. chaque province avec son nombre de candidats. Je n'ai pas fait la comptabilité pour savoir exactement combien, mais le moins que je peux dire est qu'il y a un travail qui est entre fait au niveau d'une de nos directions pour apporter d'éventuelles modifications qui seraient venues des différents arrêts et nous transmis par les juridictions qui sont en train de gérer certains dossiers. D'ici là,
il y a des candidats qui seront invalidés?
Bon, je ne peux rien dire à propos. J'ai tout simplement échangé avec mon collègue qui gère la question. Il m'a dit qu'il y a un travail qui était entrefait à ce propos et que d'ici là, tout sera OK. Donc, il est difficile de dire, par exemple, combien de candidats vont être en compétition. J'ai dit au hasard, parce que la presse en avait parlé, c'est notamment la réhabilitation d'un candidat dans son courant. Je l'ai dit parce que la presse en avait parlé. Mmh. C'est pour ça que je fais allusion à ça, mais ça n'engage que ce que je viens de dire. Okay. Il se pourrait qu'il y ait aussi à certains endroits, de remise en question. Donc, c'est ce travail-là qui est en train de se faire à notre niveau, de sorte à ce que, au 10, nous ayons une situation finale qui soit propre, qui soit pure et qui soit soumise à l'élection par les candidats, par les députés provinciaux.
Alors, on a vu avec les élections précédentes, un candidat, par exemple, député national, et puis bon, il va postuler, il devient sénateur. Est-ce qu'il a également la possibilité de postuler, de poser sa candidature comme gouverneur ou vice-gouverneur de province?
Bon, à ce que je sache, il y a des incompatibilités par rapport à l'élection des candidats gouverneurs. Nous allons assez rapidement les détecter dans les dispositions de la loi.
Entre-temps, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 081-890-63-94. Nous parlons de l'élection des gouverneurs. Quel est le mode des scrutins? Déjà, nous avons en ligne un auditeur, Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Appelez-nous également pour participer à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Bien, il s'agit du magazine électoral et non du Capi Service, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va accueillir Jérémy Mwamba, ensuite Jonas Kabinda de Kananga. Jérémy Mwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour également à l'invité avec vous.
Si.
Nous savons bien que le calendrier qui est fixé devrait être fait comme on le pensait, mais cependant qu'il y a beaucoup de choses qui restent à revoir. Vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme corruption et tout ce qu'il y a eu comme aléa qui ont presque entamé, je pense, le processus pour les sénateurs, mais je pense que les mêmes virus risquent de se transmettre encore chez les grands électeurs qui ont eu à procéder aux élections, qui ont eu à élire, je ne sais pas, les sénateurs. Je pense que maintenant, là, il faut que le sérieux s'impose. On doit choisir quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut, pas créer des clubs des amis. Et là, je pense que c'est pourquoi on assiste à un désordre au niveau de l'Assemblée. Les actions du gouverneur ne sont pas contrôlées, tout simplement parce qu'on a constitué un club des amis et il n'y a pas un contrôle adéquat au niveau des provinces et les actions du gouverneur ne semblent pas bien tourner. On assiste vraiment à un désordre total. Moi, je pense qu'il faut qu'on change le mode de scrutin comme nous l'avons dit autrefois. Au lieu que ça soit indirect, nous voudrions que le mode de scrutin change. Les législateurs, ou soit la CENI, je ne sais pas, concomitamment, doivent chercher vraiment comment ils peuvent harmoniser les choses dans les temps à venir. Parce que nous sommes en train de voir, aujourd'hui, nous n'avons pas de dirigeants à la place qu'il faut. Je vais vous donner un exemple. Ici, en province où nous sommes, il suffit de voir comment est-ce que les gouverneurs en province sont dépassés par les événements avec les vice-gouverneurs. Parce qu'on voit l'insécurité qui bat les corps, on ne sait pas. Il y a même des actions. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Lubumbashi, il n'y a pas de route.
Alors, Jérémy, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, Jérémy, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces virus de la corruption, pour éviter qu'on ne puisse plus enregistrer des cas de corruption pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Merci beaucoup, M. Jody. Moi, je pense que l'impunité telle que prônée par notre chef de l'État doit être en vue. On doit punir les coupables, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus, comme nous l'avons entendu. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec le processus qui devait déboucher à déceler tous ceux qui ont été corrompus et tous ceux qui ont été acteurs de corruption. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons suivre vraiment la ligne de conduite telle que prônée par notre chef d'État qui a de belles initiatives. Je pense que son initiative est presque à saluer parce qu'il veut que notre pays puisse être vraiment réellement un État de droit.
D'accord, merci. Merci, Jérémy.
Merci.
Merci, Jérémy Mwamba de Lubumbashi. On va accueillir Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour.
Bonjour, merci, Jody. Merci. Bonjour à l'invité aussi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Oui, merci. Et avant de poser ma préoccupation, permettez-moi d'abord de rappeler que la province du Kasaï central est l'une des provinces où on a décrié et la corruption à haute échelle dans l'élection des sénateurs. Et pour cela, je vous avoue que la population a encore de remords et que les plaies continuent encore à saigner. La mesure qui avait été prise par le président de la République de suspendre l'installation du Sénat et ouvrir l'enquête pour punir les coupables était une mesure vraiment salvatrice. Mais il se constate que comme les cours d'appel de toutes les provinces n'ont pas encore rendu le verdict sur les enquêtes, à mon sens, c'est comme déshabiller, donc c'est comme on dit chasser les naturels, il reviendra vite au galop. Parce que ce sont les mêmes députés qui avaient été corrompus qui vont d'ici le 10 voter pour qui vont voter le gouverneur. Mais comme on ne sait pas qui avait trempé dans la tricherie, qui est puni, qui ne l'est pas, bon, en tout cas, ça c'est nous laisser encore dans un suspense. Mais je tenais plutôt à dire à interpeller plutôt nos députés ici à Canada. Il faut qu'ils soient souples. Le jour de l'élection du gouverneur, quel que soit la police qui pourra sécuriser cette élection, mais le peuple est plus fort que l'arme. Donc, si encore se baigner dans la corruption et tricher, vous en aurez des nouvelles. Bon, la préoccupation, je vais demander à l'invité. Il y a des députés qui ont été... Non, plutôt, il y avait des sénateurs qui devaient être remplacés par leurs suppléants à l'élection, plutôt dans les différentes assemblées. Mais il se peut que certains députés ne sont pas encore installés. Donc les suppléants ne sont pas encore installés comme députés. Mais au moment de l'élection, s'ils ne sont pas remplacés, qui pourra voter à la place de ceux-là qui sont passés des sénateurs? Voilà ma préoccupation.
Mais ce sont pas les sénateurs ne votent pas les gouverneurs, ce sont les députés provinciaux.
Oui, j'ai dit les députés, les sénateurs, non, ceux qui étaient députés. Par exemple, quelqu'un était député provincial, il a postulé, il est passé sénateur.
Oui.
Mais son suppléant, celui qui doit le remplacer à l'Assemblée provinciale, n'est pas encore installé.
Mm.
Il n'est pas encore reconnu député. Et si le cas est pareil au moment de l'élection, qu'est-ce qui se passera?
D'accord.
Voilà la préoccupation. L'invité va me répondre.
D'accord, merci. Serge Kalobia, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Nous parlons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est simple. Je salue d'abord l'invité par rapport à ses explications qui sont brillantes. Et aussi, je voudrais d'emblée dire que les résultats des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans toutes les provinces sont déjà connus à l'avance.
Comment ça?
Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a eu déjà une répartition des caches FCC. Oh non, nous c'était les provinces. Donc, avec la discipline, vous avez vous-même entendu à la radio Capi que non, tel regroupement doit venir s'identifier si vous êtes à la majorité ou à l'opposition. Tout ça, ce sont des pressions que les décideurs sont en train de faire aux députés pour que les députés respectent naturellement les fautes des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Par exemple, chez nous au Maniema. Nous sommes au Maniema et nous savons tous que le gouverneur qui va passer, c'est le gouverneur de tel parti politique. Si je ne
Mais comment le savez-vous parce qu'il n'y a pas encore eu élection?
Nous le savons déjà. Pourquoi? Parce que vous allez attendre que non, voilà, à tel bar, tel gouverneur a déjà 14 députés ou 15 députés des FCC. Donc, quand vous avez déjà 15 députés sur 20, naturellement, c'est vous les gagnants. On vous dit que non, les élections, c'est seulement une formalité parce que chez nous, c'est l'FCC qui gagne, dans d'autres provinces, c'est Cash, dans d'autres provinces, c'est IDP, ainsi de suite.
Mais d'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui. La question que je voudrais poser à l'invité, c'est que chez nous, nous savons qu'il n'y a que des institutions dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a l'institution Assemblée provinciale et gouvernement. Donc, toutes ces deux institutions-là doivent travailler en collaboration. Pas en collaboration négative comme c'est le cas. Maintenant, face à cette collaboration-là, moi je trouve que rien ne va changer parce que la majorité qui va élire ces députés, la majorité qui va élire ces gouverneurs, va soutenir ces mêmes gouverneurs dans les bêtises et dans les histoires qui seront bonnes ou mauvaises.
Qu'est-ce que la CENI a à voir dans tout cela? Oui, là, allez-y maintenant.
Oui, la question c'est que, monsieur l'invité, est-ce que la CENI, et avec votre expérience, vous pouvez nous donner une manœuvre, une démarche que nous, population, nous pouvons suivre une fois que les députés seront avec les gouverneurs dans une même collaboration négative et que nous-mêmes, population, nous pouvons le faire partir d'une manière positive. Donc, d'une manière positive ou de la manière dont la Constitution prévoit. Voilà.
Merci. Merci Serge Kalobia. Nous parlons aujourd'hui de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs avec M. Joseph Senda Lusamba, directeur chargé des opérations à la CENI. M. Joseph, vous avez suivi les différentes préoccupations. Vous avez la parole.
Oh, merci beaucoup. Alors, on va répondre de manière générale. Nous savons tous que les autorités du pays avaient instruit le procureur général pour qu'il procède à des enquêtes à la suite des allégations de corruption à charge de certains candidats députés, de certains députés provinciaux. Nous avons également suivi que depuis un temps, un rapport préliminaire avait été déposé auprès du président de la République. Nous n'en connaissons pas le contenu. Mais tout ce que nous pouvons savoir, ce que nous pouvons dire, c'est que la démarche du procureur n'est pas suspensive. Ça veut dire qu'elle ne peut pas empêcher que les institutions dont il est question ici continuent à travailler. La démarche n'empêche pas que le Sénat s'installe. Mais seulement, si jamais il est établi qu'il y a des coupables, on va devoir s'adresser à leurs institutions pour que ces coupables ou ces prétendus coupables soient déférés devant la justice. S'il y a des corrupteurs à charge des sénateurs, ils vont devoir répondre de leurs actes. S'il y a des corrompus à charge des députés provinciaux, ils vont devoir répondre de leurs actes.
Même s'ils sont déjà installés, lorsqu'on aura les résultats des enquêtes.
Dans tous les cas, je vois très mal que des gens qui voudront se faire appeler honorables puissent couvrir entre eux un mal, que la justice aura établie. Je crois que c'est pas sérieux de leur part. S'ils veulent bien qu'on les appelle honorables, je dis comme citoyen congolais, pas comme directeur d'opération, je pense que le mieux serait qu'ils livrent la personne à la justice, que la procédure judiciaire soit respectée, parce qu'en fait la personne livrée à la justice avant condamnation est présumée innocente, et elle dispose de quoi de, elle a le droit de disposer d'un avocat qui va défendre la personne jusqu'à ce qu'un verdict final sera rendu. S'il est établi que la personne est coupable, eh bien, une sanction lui sera infligée, et c'est comme ça que se construit un état de droit. Maintenant, que la justice dise que telle personne est suspectée d'avoir corrompu ou de s'être fait corrompre et que l'institution concernée couvre la personne, je crois qu'il y a un problème d'honorabilité qui est mis en question par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la première préoccupation qui nous est venue du compatriote Jérémy. Alors,
par rapport à la question de Jonas Kabinda, il dit les suppléants d'un député provincial n'est pas encore confirmé, encore installé.
La CENI reçoit des assemblées provinciales des listes officielles des députés. C'est tout. Les assemblées provinciales transmettent à la CENI des listes officielles avec cachet. La qualité de ceux qui sont là-bas, c'est pas la CENI. Dès lors qu'il y a un cachet officiel de l'assemblée provinciale, nous travaillons avec cette liste-là, que nous transformons en liste électorale ou en liste de démarchement. Maintenant, les personnes qui sont là-bas, c'est pas la CENI, ça c'est l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale, pour diverses raisons, n'a pas procédé au remplacement de quelqu'un, bien, ceux qui se sentent lésés pourront saisir les juridictions en temps de contention pour dire que telle personne n'était pas habilitée.
Mais il y aura une voix de moins si la personne ne se retrouve pas là avec l'élection des gouverneurs.
Non, comme je viens de le dire, nous avons besoin d'une liste électorale. Cette liste électorale, nous l'élaborons sur base de la liste officielle que nous présente l'Assemblée provinciale. Mmh. Si l'Assemblée provinciale nous présente une liste avec cachet qui reprend quelqu'un qui serait contestable, eh bien, celui qui se sentirait lésé saisira les juridictions opportunes pour dire que telle personne n'a pas statut d'électeur. Mais ce n'est pas au niveau de la CENI. La CENI, elle, a écrit au président des assemblées provinciales, transmettez-nous les listes officielles de députés provinciaux. La qualité,
ça ne concerne pas la CENI.
Si, au jour du vote, la personne se présente, brandit sa carte d'électeur et replie sur notre liste électorale, nous l'admettons comme électeur. Maintenant, toutes les autres contestations pourront venir si jamais quelqu'un, comme je le disais, se sent lésé, trouvant que telle personne n'avait pas qualité d'électeur. Ça avec les juridictions. Mais au niveau de la CENI, on n'a pas ce temps d'aller chercher dans la loupe qui est député provincial, qui ne l'est pas, non.
D'accord. Alors, avant de répondre à Serge Kalobia, on va accueillir Gérard, qui nous appelle des Djougou. Bonjour, Gérard.
Bonjour, bonjour Radio Okapi et tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Oui, quelle est votre question, Gérard?
Ma préoccupation est la suivante. Si les députés pouvaient adhérer à mon idée, je pense que le mieux serait d'élire une personne dans notre cas politique, puisque si on se lissait entre soi, on risque de ne pas faire le contrôle. Alors, si c'est quelqu'un dans notre cas politique, c'est très facile de faire le contrôle. Et ce que je pouvais demander, je sais que ça ne peut pas tenir pour aujourd'hui, mais il faudra à la longue revoir aussi la loi pour que les députés soient quand même directs pour le gouverneur et leurs vices. Et ensuite, je pensais c'était que la liste des gouverneurs titulaires soit séparée, par exemple, de ceux de leurs vices, puisque comme ça, on allait élire un gouverneur compétent avec un autre vice-gouverneur compétent aussi.
Voilà, il y a une coupure. Désolé, Gérard, mais on a quand même retenu l'essentiel de votre préoccupation. On va accueillir André, qui nous appelle des Dungu. Bonjour, André.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Nous parlons dans ce magazine électoral de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voulais seulement poser une question à notre au plateau. Est-ce que le candidat gouverneur sont-ils autorisés de donner des gros moyens comme des vestibules, des droits, de l'argent pendant leur campagne? Est-ce que s'ils sont autorisés, n'est-il pas un processus de tentative de tricherie ou de tentative de corruption? Puisque vous savez, quelqu'un qui n'a pas de moyens, il propose un véhicule, une voiture 4x4. Mais nécessairement, il va vous voter, même si tu n'es pas compétent, même si tu as de l'argent, il peut nécessairement il peut rapidement vous voter, puisque là où il a quitté, je ne sais pas de quel territoire, il n'a pas un moyen,
d'accord.
Il va acheter la voie là facilement.
D'accord, merci. D'accord. On va accueillir Sadrak de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, j'attends donc à propos du mode de scrutin à propos de la CENI là.
Oui.
Bon, pourquoi au niveau de la République, donc, de l'élection de gouverneur ou bien du président de la République, donc on a parlé de la machine à voter. Mais dans ce cas, il n'y a pas la machine à voter. Pourquoi?
Bon, d'accord. Jusque-là, M. Joseph n'a pas dit qu'il n'y avait pas de la machine à voter. Il va nous le dire tout à l'heure. Vous avez la parole, M. Joseph.
Merci beaucoup. Nous allons revenir d'abord à Jonas pour rappeler qu'il s'agit ici, de par la volonté du législateur, d'un scrutin indirect. Ça veut donc dire que la population a élu des députés provinciaux. Les députés provinciaux, à leur tour, élisent les gouverneurs. Maintenant, de quelle force dispose la population pour faire partir un gouverneur? Du point de vue du droit ou du point de vue de la loi, je ne vois pas des dispositions qui pousseraient qu'exploiterait la population pour obtenir le départ d'un gouverneur. Il existe des dispositions qui donnent pouvoir aux députés provinciaux de faire partir un gouverneur. Ou alors, le gouverneur a été nommé à d'autres fonctions, à ce moment-là, il libère son poste de gouverneur. Mais qu'il soit parti sous pression de la population, ça, je ne vois pas ça. Peut-être qu'il faudra exploiter à ce niveau-là
une motion,
le fameux article 64,
oui.
Qui en fait est supposé s'appliquer au niveau national. Je ne sais pas s'il faut l'appliquer au niveau d'une province,
oui,
pour obtenir le départ d'un gouverneur. Puisqu'ils ont fait confiance à des députés, la seule démarche, à mon avis, serait de faire pression auprès de leurs députés pour que les députés, à leur tour, obtiennent le départ du gouverneur, parce que c'est eux qui l'ont élu, je crois. Mais une action directe comme ça, avec des dispositions légales établies, qui donnerait pouvoir à la population pour faire partir un gouverneur, à ma connaissance, je ne vois pas ça.
Alors Serge Kalobia nous dit que tout est déjà arrangé d'avance entre le regroupement CASH et FCC, donc ces élections, c'est juste une parodie.
Je ne peux pas verser dans le procès d'intention. Mm-hmm. Ça s'est fait où, je ne sais pas. Si lui, il sait très bien, il peut prendre des photos et nous les montrer que voilà, ça se passe à tel endroit. Et on est en train de concocter quelque chose contre les intérêts de la population et puis avec photo à l'appui. Mais sinon, ça risque d'être tout simplement de simples procès d'intention. Et là, c'est pas très, très intéressant. Mm. Maintenant,
Gérard de Djougoua dit, il donne des conseils. Il demande aux députés provinciaux d'élire quelqu'un d'un autre camp politique parce que là, à ce moment-là, on peut bien le contrôler. Et puis, ben voilà, au lieu d'élire quelqu'un de votre propre camp.
Non, il faut comprendre que le gouverneur vient avec son vice-gouverneur qui est supposé être un homme de confiance parce que c'est la loi qui recommande que le gouverneur soit élu avec son vice-gouverneur. C'est différent du sénateur qui a un suppléant, mais le suppléant n'est pas soumis au vote. Il y a des gens qui peuvent obtenir de voix, qui peuvent être élus grâce à la popularité du vice-gouverneur. Ou l'inverse, on élit un gouverneur parce qu'il a choisi un bon vice-gouverneur. Ceux qui s'alignent derrière le vice-gouverneur donnent de voix au gouverneur. Vice-versa aussi, il y a des gens qui élisent un gouverneur parce qu'en fait, ils donnent des voix au gouverneur. Donc, la loi recommande que les deux se constituent, pour ne pas parler en termes de couple, mais en pair, mm-hmm. pour qu'ils soient en mesure de travailler de manière harmonieuse. Ils sont appelés à travailler régulièrement ensemble. Donc, il faut que ça soit quelqu'un de confiance, le gouverneur. C'est pas n'importe qui peut commencer à lui créer des problèmes et ça va déranger le travail au niveau de la province. Et comme quelqu'un l'a dit ici, il n'y a que deux institutions au niveau de la province, c'est l'Assemblée provinciale, c'est l'exécutif provincial que dirige le gouverneur, avec des ministres et bien sûr avec son vice-gouverneur.
Et Gérard propose qu'on puisse revoir le mode des scrutins des gouverneurs, au lieu que ça soit indirect, il voudrait que ça soit au suffrage universel direct.
Bon, je pense qu'à un moment donné, le législateur congolais va se pencher sur la question pour que nous sachions comment est-ce que nous pouvons passer des scrutins indirects aux scrutins directs. Mmh. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'en fait, tout le monde dépend du souverain primaire, mais il faut savoir que ce souverain primaire, il ne faut pas beaucoup le solliciter. Nous avons déjà à ce jour 5 scrutins directs, 6 scrutins indirects. Si nous arrachons, enfin nous soustrayons de ces 6 scrutins, 2 scrutins, élection de gouverneur, élection de sénateur, pour en faire des scrutins directs, nous passons à 7. Il faut donc que cette population soit en mesure d'être sollicitée. C'est pas
peut-être
moi.
Il dit que c'est à cause des allégations de corruption.
C'est ce que j'ai dit, il y a les avantages et les inconvénients. Mmh. Au moment opportun, le législateur va étudier, la société civile pourra s'impliquer, donner des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça réduit la possibilité, la probabilité de corrompre, mais les inconvénients, c'est qu'il y a une forte sollicitation de la population. Et il faut tenir compte de tous ces éléments-là, voir de quel côté penchera la balance en termes d'avantages ou désavantages.
Mmh. Et Chadra qui nous dit, lors de la campagne électorale, vous avez dit ça commence demain, est-ce que les gouverneurs, les vice-gouverneurs sont autorisés à donner des véhicules et des maisons aux députés provinciaux?
Pour qu'ils fassent quoi avec? Nous avons dit qu'ils présentent leur programme d'action. C'est tout. Mais le véhicule présente quoi? Le véhicule n'est pas un programme d'action. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il se livrerait à un tel jeu. On attend d'eux qu'ils présentent des programmes. Comment ils entendent promouvoir le développement de la province qu'ils veulent diriger. Mmh. C'est tout. C'est pas question de véhicules ou de
maisons. Alors, Chadrac dit que cette fois-ci, pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, il n'y aura pas de machine à voter.
Si. Il y aura une machine à voter. Je crois que nous y travaillons, comme je le disais ici. Mmh. Nous y travaillons de la même manière que nous avons procédé par machine à voter avec les sénateurs. De la même manière, nous le ferons aussi avec le gouverneur. Ça se fera au moyen de la machine à voter.
Valentin, vous êtes à Kindu, Malonga, à Bandundu-Ville et Apôtre Élisée nous appelle des Kaminas. Nous parlons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans ce magazine électoral. Valentin, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour sur l'invité.
Merci.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup. Je remercie d'abord l'invité pour cette belle émission. En fait, moi, je peux juste profiter et dire un petit message à nos députés, tout en disant qu'ils sachent très bien qu'ils sont là, c'est nous, population, qu'ils avons voté. Et ils doivent aussi faire preuve de la volonté de la population. Et non de voter un gouverneur qui ne maîtrise même pas la province, un gouverneur qui ne se soucie jamais de la population. Il faut voir comment la population est en train de souffrir. Il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. Maintenant, je dis à nos députés de faire un bon choix. Et j'en profite aussi pour dire à celui qui sera comme gouverneur, monsieur le gouverneur, il faut bien maîtriser la province, il faut bien maîtriser la vie, il faut aussi faire preuve de la volonté de la population. Je remercie l'invité, je le salue aussi.
Bien, Malonga, merci. Vous êtes à Banonouville, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour notre invité, à
merci.
Tous ceux qui nous suivent à ce moment.
Quelle est votre question?
Ok, ce n'est pas question jeudi, c'est la préoccupation un peu des commentaires. Je veux, vous nous avez aidé beaucoup là-bas. Lorsque vous demandez à l'invité que je suis un candidat gouverneur, au moment de la campagne, il donne une mesure de ceci. L'invité nous. Mais je vois ceci, la leçon de l'élection des sénateurs a fait vraiment une instruction aux députés. Moi, je ne sais pas, c'est ce que l'invité qui peut éclaircir. Je ne sais pas à temps de campagne, au moment de campagne. Qu'est-ce que le candidat peut donner aux électeurs? Puisque nous avions vu dans l'élection générale présidentielle et députation nationale, il y a des candidats qui nous ont donné les tricots, les motos, tout ça, il y a beaucoup. Est-ce que tout ça, ça fait partie de la corruption? C'était propagande pour qu'ils soient votés. Il y a un électeur qui a gagné ou bien qui a dit les choses de plusieurs candidats, mais il a voté seulement un seul candidat. Au moment aussi des grands électeurs, si, comme nous sommes ici, à Banonouville, il y a une abolition. Il y a des colonnes ici qui chantent pour celui-là, et des banderoles sont affichées, il faut voter, tiens, c'est moi qui fasse ceci, qui fasse ceci, qui fasse ceci. Mais la vérité des urnes nous dira là-bas. Alors si un candidat gouverneur, il donne quelque chose aux députés,
oui.
Je ne vois pas s'il y a vraiment une circonstance là-bas.
Donc, d'après vous, le fait de donner à des jeeps ou à des maisons, c'est pas de la corruption. C'est dans le cadre de la campagne.
Oui, dans la période de campagne. En dehors de la campagne, c'est comme ça. Puisque dans d'autres sièges, je dis peut-être que vous êtes à connaissance comme moi, la loi électorale limite le montant à donner aux électeurs. Si c'est $30, un candidat qui dépasse $30, il sera poursuivi par la justice. Mais ici, chez nous, il n'y a pas cette loi qui... Un candidat n'est pas déposé comme ça. Raison pour laquelle nous avions vu dans l'élection présidentielle des motos, et oui, il y a aussi des véhicules, tout ça, ça dépendra des capacités de finances des candidats.
D'accord. D'accord, merci Malonga de Banonville. On va donner la parole à l'apôtre Élisée de Camina. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, premièrement, c'est de remercier l'invité qui est sur le plateau.
Merci.
Il nous a beaucoup éclairé. Je pose la question de savoir, il a dit que au deuxième tour, s'il y a égalité de voix, c'est la liste qui a le plus vieux entre le candidat gouverneur qui passe.
Mmh.
Et il sera, j'espère qu'il sera proclamé illico dans la plénière. Mais au cas où, au deuxième tour, il n'y a pas celui qui atteint la majorité absolue et qu'il y a décalage de voix, qu'est-ce qui se passe selon que la loi a prévu, la loi électorale?
D'accord. Si oui, une autre. Oui, il y a une autre préoccupation ou c'est la seule?
Bon, une autre préoccupation, c'est juste un commentaire, en fait, ajouté à nos élus. qu'ils doivent faire un choix judicieux pour le développement des provinces. Ils ne doivent pas faire un choix selon le programme d'un tel groupement politique. Le groupement politique, il doit faire un choix pour l'intérêt de la province.
D'accord, merci. On va donner la parole à Ali Bofenga de Boutembo. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
Merci. On vous écoute, Ali.
Okay. Moi, j'ai une question concernant les élections du gouverneur. J'ai appris que non, ici à la ville, donc cette élection. Alors, quel sera alors notre souci pour la ville de Boutembo Yumbi?
D'accord. Merci. Monsieur Joseph Senda, vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'ai bien suivi les interventions de compatriotes. Je commence par Monsieur Malonga. Là, je vais faire allusion, comme tous nous sommes des croyants, je fais allusion à un passage de la Bible qui dit que les présents corrompent les paroles de juste. Les cadeaux corrompent les paroles de juste. Quand vous donnez à quelqu'un un cadeau, vous avez corrompu ses paroles. Au lieu de dire A, il dira B. Au lieu de dire B, il dira A. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Il ne faut pas souhaiter.
Il faut encourager.
Et si vous faites corrompre, c'est que vous êtes corruptible. Et ce n'est pas à votre honneur. Ni les corrupteurs, ni les corrompus, personne n'en sort.
Donc le fait de donner des t-shirts ou des motos pendant la campagne électorale, c'est de la corruption.
Moi, ça corrompt les paroles justes. C'est tout. C'est ce que la sagesse de Dieu dit. Les présents corrompent les paroles justes. Donc quand vous remettez un cadeau à quelqu'un, vous l'avez acheté. Au lieu qu'ils disent A, ils diront B, au lieu qu'ils diront... C'est comme ça que certaines autorités, bon, je ne peux pas faire la publicité d'un vieux président français, qui ne voulait pas de cadeaux, je crois que c'est De Gaulle, qui ne voulait pas de cadeaux parce qu'il estimait que les cadeaux affectaient un peu sa personnalité, affectaient son raisonnement, etc. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas du tout recommander. Je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un m'apporterait un t-shirt pour que je lui donne ma voix. C'est m'insulter même. S'il estime qu'il peut me réduire un t-shirt, c'est qu'il m'a insulté.
Et je ne vote pas sur base des t-shirts ou des motos.
Mais non.
C'est sur base d'un programme.
D'un programme bien établi. Comment est-ce qu'il va développer le pays? Comment est-ce qu'il va électrifier la province? Comment est-ce qu'il va faire scolariser les enfants? Comment est-ce qu'il va lutter contre les maladies infantiles dans sa contrée? Comment renforcer l'accès à l'eau potable, à la propriété? Il y a beaucoup, énormément de choses. Il faut qu'il soit en mesure de nous dire qu'il aura un programme
réaliste
d'assainissement public.
Et qu'il puisse convaincre.
Qu'il puisse convaincre, effectivement. Avec quels moyens? Comment est-ce qu'il va assainir la ville? Les moyens viendraient d'où? Des taxes, etc. Comment est-ce qu'il va combattre la corruption dans les milieux scolaires? Comment est-ce qu'il va combattre la dépravation des mœurs? Il y a énormément de choses. Et ça ne demande pas que l'on vienne avec
un t-shirt
pour
des
me
motos.
Dire. C'est pas les t-shirts qui vont donner l'intelligence pour combattre la dépravation des mœurs. Donc, vous faites corrompre, c'est que vous-même vous êtes coupable, quoi. Vous êtes corruptible. Parce que on ne fait corrompre que celui qui est corruptible.
Bien.
Non, vous repoussez carrément.
L'apôtre disait, alors,
l'apôtre disait qu'au deuxième tour, au cas où la majorité absolue n'est pas atteinte, je voudrais bien lui faire comprendre que la majorité ici, elle porte sur les voix valablement exprimées. Et on atteindra certainement. Vous êtes à 48 députés, vous devez départager deux candidats qui se présentent. Ou tout le monde a voté valablement. Okay. C'est-à-dire qu'une voix a été exprimée correctement, et là, inévitablement, il y aura une majorité. S'il y a des abstentions, on les soustra de 48, il restera un nombre qu'on va diviser par deux, il y aura certainement une majorité qui sera atteinte. Donc c'est impossible qu'il n'y ait pas une majorité absolue au deuxième tour. Et j'insiste, il s'agit de voix valablement exprimées. Si 48 députés de Kinshasa doivent départager deux candidats au deuxième tour et que tous votent chacun pour un, il y aura soit 24-24, soit 23-25. Donc s'ils ont 24-24, comme nous avons dit, eh bien, à ce moment-là,
le plus âgé.
On se rabat sur le plus âgé. S'ils ont 25-23, eh bien, celui qui a 25 passe. Si par exemple 8 s'était abstenu, il va nous rester 40. C'est 20-20 ou bien 19-21. C'est clair. Donc,
il y aura toujours
la majorité absolue qui sera
la majorité qui sera dégagée.
Voilà.
Alors, Ali Bofengo de Boutembo, vous voulez savoir à quand les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Maïndombe et au Nord Kivu?
Bon, à partir de demain, s'ouvre le bureau de réception des traitements de candidature des sénateurs ou gouverneurs pour ces quatre circonscriptions. Le programme, nous l'avons, qu'il me donne une minute que je...
Voilà, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. On en parle aujourd'hui dans à votre magazine électoral avec M. Joseph Senda Lusamba, chargé des opérations à la CENI. On va accueillir Mardoché Degbadolité. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Mardoché?
J'ai deux questions et une préoccupation. Je dois commencer d'abord la première préoccupation. L'invité avait dit que il faut que les candidats déposent la liste. Je sais bien que nous savons tous qu'avant de déposer la liste des candidats, il faut avoir quelques cautions pour...
Non, ce sont les assemblées provinciales qui transmettent les listes officielles à la CENI. Ce sont les assemblées provinciales qui transmettent à la CENI les listes officielles des députés. Ces listes-là, nous les transformons en liste électorale et en liste d'émargement.
Je disais ceci, ma préoccupation est de savoir, avant de poser la candidature, il faut d'abord donner la caution à cette élection. Alors, la question est de savoir si un candidat se désiste, est-ce que cette caution est remboursable,
sera remboursable. Non. Oui ou non? Non, la caution n'est pas remboursable, compatriote.
Voilà.
Alors, ma deuxième question.
Oui.
Est-ce que dans la liste, un candidat peut donner seulement son nom et quelqu'un de sa membre de famille qui doit être son vice-gouverneur? Parce que c'est ce qui se passe ici dans notre province. Donc c'est ça ma question.
Merci.
Monsieur Joseph, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Si c'est pas interdit par la loi, bon. Oui,
on a vu beaucoup de suppléants.
Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Si la loi n'interdit pas que le vice ou le suppléant soit son fils, bon.
Ou sa femme.
Ou sa femme, la loi ne l'interdit pas, et donc c'est permis.
Donc il faut chercher plutôt à... Si on n'est pas content, donc il faut revoir cette loi.
Bon, une fois encore, nos lois sont fixées par le législateur. C'est le législateur qui, peut-être sur base d'une motion de la population, peut estimer que cette loi-là, on peut la modifier de telle ou telle façon. Et je prends au hasard, si nous nous plaignons que ce n'est pas possible qu'un seul candidat soit à la fois, qu'une seule personne soit à la fois candidat sénateur, député national, député provincial, nous voulons que la loi interdise, eh bien le législateur coulera en loi. Une fois que vous êtes candidat député national, il ne vous est pas autorisé d'être candidat provincial, quelle que soit la circonscription. Okay, on vous interdit carrément. Donc ça, c'est en fait la population qui peut aller vers le législateur. Le législateur peut, en évaluant un processus électoral ou en évaluant la vie nationale du pays, estimer qu'il faut que nous modifions ces dispositions-là pour que les choses aillent dans un sens comme dans l'autre.
Alors revenons à la question de Ali de Boutembo par rapport aux élections de gouverneur dans le Maïnombe.
Il faut rappeler d'abord que l'élection a lieu le 31 mars. Nous allons vers la convocation des sessions extraordinaires.
Le 31 mars.
Enfin, le 31 mars, l'élection des députés provinciaux.
D'accord.
Et nationaux. D'accord. Dans ces quatre circonscriptions.
Oui.
C'était le dimanche passé.
D'accord.
Alors, d'ici le 21 avril, nous allons convoquer les sessions extraordinaires des assemblées provinciales de Maïndombe et du Nord Kivu. Parce qu'il faut qu'on arrive à coopter les chefs coutumiers pour que ces assemblées soient au complet. Au même moment qu'il y a un travail qui s'est fait ou qui se fera au niveau des assemblées provinciales, au même moment, nous procédons à la réception des candidatures. Et ça commence demain. Demain 6 avril jusqu'au 12 avril, ouverture des bureaux de réception et traitement de candidatures.
Des candidats gouverneurs.
Sénateurs et gouverneurs.
Sénateurs et gouverneurs.
Pour les quatre circonscriptions.
D'accord.
Okay. Donc nous commençons demain. On va commencer à ouvrir, à recevoir les candidats. Enfin, il y a d'abord le retrait des formulaires, les dépôts et puis les traitements. Et comme nous le faisons d'habitude. Au 14 mai, nous procédons à l'installation des bureaux définitifs de ces assemblées-là, pour que ces assemblées soient en mesure de procéder à l'élection de sénateurs. Parce qu'en fait, la loi recommande que les sénateurs soient élus 4 jours après l'installation des assemblées provinciales. Les assemblées seront installées les 14. Les 18, nous procédons à l'élection des sénateurs dans les Maïndombe et dans le Nord Kivu.
Oui.
Et le jeudi 30 mai, nous procédons à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans ces mêmes provinces. Tant qu'ils n'avaient pas leurs députés au complet, ils ne pouvaient rien faire. Maintenant qu'on va proclamer aujourd'hui ou demain les élus députés provinciaux, ces assemblées vont se compléter en procédant à la cooptation des chefs coutumiers pour qu'elles soient complètes avec un bureau définitif installé et qu'elles soient en mesure de recevoir les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs. Les sénateurs et les gouverneurs, nous les recevons comme candidats à partir de demain parce que nous ouvrons nos bureaux dès demain. Et comme je l'ai dit, les 14, nous installons les bureaux définitifs des assemblées du Nord Kivu et de Maïndombé. Et 4 jours après, le 18, nous recevons les candidats sénateurs pour qu'ils se fassent élire par les députés provinciaux. Et le 30 mai, nous procédons à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces deux provinces, Maïndombé et Nord Kivu. On va terminer avec la question de Pierrot Pagna de Lubumbashi. Bonjour. Pierrot Pagna, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Pierrot.
Oui, allô, bonjour Jody.
Quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. Je suis un peu pressé parce que il y a peu de minutes que je pouvais consommer. Alors, il y a les analystes qui pensaient que l'élection, la constitution doit être révisée parce que d'autres disent que le président peut nommer comme l'a fait le président sortant la nomination des commissaires. Alors moi je pense que nous sommes déjà habitués à la nomination. On ne vote pas, pour bien préciser. Les ensembles provinciales ne votent pas. Alors, pour les modes de scrutin, là, nous voulons que les assemblées puissent voter d'autres, des nouvelles lois pour fixer d'autres conditions. Alors, j'ai des questions que je voulais poser. Lorsque nous avons des provinces comme Sankourou qui alignent qu'une candidature seulement, que prévoit la loi là? Deuxième question, c'est concernant le famille politique. Lorsqu'on a une famille politique qui compte 3 candidats et l'autre famille politique opposée est exclue, que nous prévoit la loi? Est-ce que cette élection peut être organisée avec seulement cette famille électorale? Et concernant les fraudes et corruptions que nous avons décriées, tout le député qui ont été saisis, qui ont été saisis en flagrance, qui ont été corrompus lors de l'élection sénatoriale, ces députés-là ont-ils droit de voter encore? Merci et bon
merci
à mon PDG honorable Jean de Dieu Moulenda.
Merci. On donne la parole à M. Joseph Sénat.
Merci beaucoup. Le compatriote a fait allusion aux commissaires généraux. Je ne veux pas aller en profondeur par rapport à ça, mais je sais que ce sont des cas exceptionnels. Nous savons très bien qu'à un moment donné, Mobutu avait travaillé avec les secrétaires généraux parce qu'il y avait une crise au niveau du gouvernement. Mmh. Nous savons qu'évoque également Joseph Kabila avait nommé des commissaires généraux ou spéciaux, mais ce sont des cas exceptionnels.
Exceptionnel.
Pour des situations exceptionnelles. Mais la loi recommande l'élection de gouverneur. C'est bien couché dans la Constitution.
D'accord. On va y rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Une famille politique aligne 3 candidats et l'autre famille n'a pas de candidat. Comment ça va se passer à ce moment-là?
La loi ne parle pas en termes de famille. Hein. La loi parle en termes de candidature recevable. Mmh. Si au terme du BRTC, on a reçu comme recevable une seule famille politique et l'autre s'est fait éliminer,
La famille n'a rien à voir.
La famille n'a rien à voir là-dedans.